Chapitre 17. Promenade sur la glace. Le lendemain matin, dans un silence seulement troublé par le grincement des selles et le crissement de la neige sous les sabots des chevaux, une colonne sortit du camp des Aes Sedai pour se diriger vers le nord. Dans le ciel où luisaient encore des étoiles, la lune était sur son déclin, mais le grand manteau de neige qui recouvrait le paysage offrait une excellente visibilité. Quand l'aube se leva enfin, les cavaliers étaient en route depuis plus d'une heure, sans avoir pour autant parcouru une très grande distance. En terrain découvert, Egwene pouvait permettre à Daïchar d'avancer au petit galop, en soulevant des gerbes blanches sur son passage. Mais le plus souvent, les chevaux étaient obligés de progresser au pas, au milieu d'une forêt dense, au sol raviné rendu encore plus dangereux par la neige. Les chênes, les pins, les lauréoles et d'autres arbres que la jeune femme ne connaissait pas semblaient encore plus mal en point qu'au temps de la sécheresse. Aujourd'hui, se souvint la chère Dame Irline, c'était la fête d'Abraham. Mais il n'y aurait pas de gâteau au miel fourré de petits cadeaux. Cela dit, avec un peu de chance, certaines personnes auraient quand même une surprise aujourd'hui. Sphère jaune pâle qui ne diffusait guère de chaleur, le soleil monta lentement dans le ciel. Chaque inspiration continua pourtant de glacer les poumons d'Egwene, un nuage de buée se formant devant sa bouche chaque fois qu'elle expirait. Pas encore glacial, mais néanmoins piquant, le vent charria de gros nuages noirs en direction de l'ouest, vers le royaume d'Andorre. Soulagée que les orages s'éloignent, la jeune femme éprouva cependant une sincère compassion pour ceux qui auraient à les subir. Attendre un jour de plus, si les conditions climatiques l'avaient imposé, aurait été une torture. Pas à cause de ses migraines, pour une fois, Egwene n'avait pas pu fermer l'œil de la nuit. L'excitation et l'attention, mêlées à de la peur, bien entendu. Une peur qui tissait sa toile en elle à la manière d'une araignée. Bizarrement, elle n'était pas fatiguée. Au contraire, elle se sentait comme un ressort comprimé ou une pendule remontée à fond. Une incroyable quantité d'énergie l'emplissait, ne demandant qu'à être libérée. Cela posé, tout pouvait encore tourner horriblement mal. Derrière l'étendard de la tour blanche, la flamme de Tarvalon en surimpression sur une spirale de sept couleurs, une par aja, la colonne se révélait plutôt impressionnante. Quant à l'étendard, il avait toute une histoire. Fabriqué en secret à Salidar, il reposait depuis au fond d'un coffre, dont seul le hall détenait la clé. S'il n'y avait pas eu cette délégation, qui devait nécessairement bénéficier d'une certaine pompe, Egwene doutait fort que les représentantes auraient sorti le drapeau de sa cachette. L'escorte se composait d'un millier de cavaliers lourdement équipés et armés de lances, d'épées, de masses d'armes ou de haches. Un déploiement de force qu'on voyait rarement au sud des terres frontalières. Le chef de cette troupe, un borgne originaire du Chiénard, qui portait sur son orbite vide un cache où était peint un œil rouge, n'était pas un inconnu pour Egwene. Mais leur rencontre lui semblait remonter à une éternité. Quoi qu'il en soit, Uno Nomesta sondait les arbres de son œil unique, comme si un ennemi pouvait se cacher derrière chaque tronc. Très droit sur leur selle, ces hommes se montraient tout aussi attentifs. Loin devant, d'autres cavaliers, bien plus légèrement équipés, ouvraient la marche, s'assurant qu'aucun danger ne guettait la colonne. Tenant leur rênes d'une main et leur arc de l'autre, ces hommes n'avaient pas la possibilité de resserrer les pans de leur cape, et ils devaient crever de froid. Un groupe similaire formait une avant-garde encore plus avancée, tandis que d'autres se chargeaient de sécuriser les flancs et l'arrière de la colonne. S'ils ne s'attendaient pas à un coup fourré des Andoriens, Gareth Bryne avait déjà commis des erreurs dans sa vie, ses propres mots. Et de toute manière, il se fiait beaucoup moins aux Mourandiens. De plus, il fallait compter avec d'éventuels tueurs à la solde d'Elaïda, et avec les inévitables suppôts des ténèbres. Avec eux, on ne pouvait jamais savoir quand ni où les coups allaient pleuvoir. Et même si on les supposait très loin d'ici, c'était exactement la même chose avec les Shaido. Enfin, sur une expédition trop chétive, qui sait si des brigands n'auraient pas eu envie de se faire la main. Le seigneur Bryne n'était pas homme à prendre des risques inutiles, et Egwene s'en félicitait. Aujourd'hui, elle désirait qu'il y ait autant de témoins que possible. Pour sa part, elle chevauchait devant l'étendard en compagnie de Shiryam, Siouan et Gareth Bryne. Pour l'heure, tous les trois semblaient plongés dans leurs pensées. Parfaitement détendu, comme s'il était né sur un cheval, le seigneur scrutait minutieusement le terrain, gravant chaque détail dans son esprit, au cas où il aurait à se battre sur ce site. Raide comme un bout de bois sur sa selle, Siouan serait sûrement percluse de courbatures longtemps avant d'arriver. D'ailleurs, elle sondait le nord comme si elle voyait déjà le lac, marmonnant entre ses dents à intervalles réguliers. la preuve qu'elle était mal à l'aise. Alors qu'elle ne savait rien de ce qui allait arriver, à l'instar des représentantes, Shyriam semblait encore plus nerveuse que l'ancienne chère d'Amirline, nerveuse et colérique, pour une raison connue d'elle seule. Vêtue de soie, de velours et de fourrure, presque un défilé de mode, et chacune arborant dans le dos la flamme de Tarvalon, les représentantes au grand complet chevauchaient derrière l'étendard. Alors qu'elles se contentaient d'habitude de leurs bagues au serpent, en guise de bijoux, ces femmes étaient aujourd'hui littéralement lestées de colliers, de bracelets et de bagues. Pourtant, en matière de spectacle, leurs champions les battaient à plate couture, grâce à leur cape caméléon. Au gré du vent qui les agitait, ces accessoires vestimentaires changeaient de couleur, donnant l'impression que leurs porteurs se fondaient en partie au paysage. Au nombre de deux ou trois par sœur, des domestiques suivaient sur les meilleurs chevaux qu'on avait pu trouver pour eux. Si certains n'avaient pas tenu par la bride un cheval de bât, ils auraient pu passer pour des nobles mineurs, tant on avait retourné tous les coffres du camp pour leur dénicher des tenues chics et de couleurs vives. Peut-être parce qu'elle comptait parmi les représentantes qui n'avaient pas de champion, Delana avait emmené Halima avec elle, lui faisant attribuer une fière jument blanche. Les deux femmes chevauchaient côte à côte et Delana, assez fréquemment, se penchait pour parler à l'oreille de sa secrétaire. Trop excitée, celle-ci l'écoutait à peine. Personne ne croyait vraiment à cette histoire de secrétaire. On pensait plutôt que Delana s'était montrée charitable envers la jeune femme, la gardant avec elle. À moins qu'une amitié se soit développée entre l'austère sœur aux cheveux clairs et la fille de la campagne à la crinière brune et au tempérament de feu. Même si ça semblait invraisemblable, pourquoi pas? En tout cas, Egwen avait vu l'écriture d'Halima, et elle ressemblait à s'y méprendre à celle d'une enfant qui viendrait juste de commencer à apprendre à former des lettres sur du parchemin. Aujourd'hui, Halima était aussi richement vêtue que les sœurs, et elle arborait autant de bijoux, sûrement fournis par Delana. Chaque fois que le vent écartait les pans de sa cape de voyage en velours, c'était pour dévoiler une poitrine incroyablement opulente. Loin de s'en offusquer, Halima riait aux éclats et prenait tout son temps pour refermer le vêtement, comme si elle voulait faire croire qu'elle ne souffrait pas plus du froid que les Aes Sedai. Pour la première fois, Egwene s'était réjouie qu'on lui ait offert de quoi remplir la garde-robe de 10 femmes. Grâce à tout ça, elle était parvenue à donner une bonne leçon d'élégance à toutes les sœurs. Sa robe de soie bleue rayée de blanc richement décorée de perles, en ce jour il y en avait même sur le dos de ses gants, elle portait une cape doublée d'hermine, fournie à la dernière minute par Romanda. Par souci d'équilibre, une parure d'émeraude prêtée par l'Elaine brillait à son cou et à ses oreilles. En revanche, les pierres de lune piquées dans ses cheveux venaient de Janya. Pour cette journée, la chair d'Amirline devait être resplendissante. En velours bleu rehaussé de dentelle, un collier de perles au cou, Shuan elle-même semblait s'être habillée pour aller au bal. Romanda et l'Elaine chevauchaient à la tête des représentantes, comme de juste. Elles collaient tellement le porte-étendard qu'il jetait régulièrement des coups d'œil derrière lui, talonnant son cheval pour reprendre un peu de distance. Alors qu'elle sentait peser sur sa nuque le regard des deux sœurs, Egwene, elle, réussit à ne pratiquement pas tourner la tête vers elle. Ces deux femmes la croyaient pieds et poings liés, certes, mais elles devaient se demander avec quelle corde elle était entravée. Il ne fallait pas que ça tourne mal. Non, il ne le fallait pas. À part la colonne, quasiment rien ne bougeait dans le paysage couvert de neige. Un grand faucon vint cependant décrire des cercles dans le ciel au-dessus des cavaliers. Puis il fila en direction de l'est. En deux occasions, Egwene vit dans le lointain des renards à queue noire, toujours revêtus de leur fourrure d'été. Et elle aperçut même un cerf aux formidables andouillés, mais il disparut presque aussitôt derrière des arbres. Coupant la route de Bella, un lièvre la surprit tant qu'elle fait mine de se cabrer. Croyant que sa monture allait la désarçonner, Shuan s'accrocha à ses rênes comme à une bouée de sauvetage. Bien entendu, la jument se contenta d'un hennissement plein de reproches et continua imperturbablement à avancer. En fait, le hongre rouan d'Egwene avait réagi plus violemment, alors que le lièvre était passé loin de lui. L'ancienne chair d'Amirline marmonna entre ses dents des aménités qui s'adressaient à l'innocent animal, et il lui fallut un bon moment avant de serrer moins fort ses rênes. Dès qu'on la perchait sur un cheval, l'humeur de Shuan tournait à l'orage. Quand c'était possible, elle voyageait dans un des chariots. Mais là, elle battait tous ses records. Pour savoir pourquoi, il suffisait de regarder le seigneur Brine, ou de noter la façon dont elle le foudroyait du regard. S'il remarqua le manège de Shuan, le seigneur ne le montra pas. Vêtu comme à l'ordinaire, il était bien le seul dans ce cas, il était tel qu'en lui-même, à savoir à la fois banal et impressionnant. Un roc qui avait connu bien des tempêtes, et en surmonterait bien d'autres encore. Sans trop savoir pourquoi, Egwene était ravie qu'il ait résisté à toutes les tentatives visant à le vêtir comme pour la parade. Certes, Les membres de la délégation devaient en imposer à Pélivard et compagnie, mais lui n'avait pas besoin de soie et de velours pour ça.
« Une jolie matinée pour chevaucher, »
dit soudain Shériam.
« Pour s'éclaircir les idées, il n'y a rien de mieux qu'une promenade dans la neige. »
Une provocation à l'intention de Suan, qui en grommela de plus belle. Sans rien dire, car elle ne pouvait pas tancer une sœur devant tant de témoins, mais son regard noir laissa deviner que Shériam ne perdrait rien pour attendre. La gardienne des chroniques sursauta et fit la grimace. Sa jument tachetée de grise, Ale, renacla sur quelques pas, et elle la calma d'une main qu'on aurait pu juger un peu trop ferme. Shériam n'avait guère témoigné de reconnaissance à la femme qu'il avait jadis nommée maîtresse des novices. Comme toutes les personnes qui se rendaient coupables d'ingratitude, elle cherchait toutes les raisons possibles de blâmer Suan. Depuis sa prestation de serment, c'était le seul véritable défaut qu'Egwene avait découvert. Bien entendu, dans le même ordre d'idées, elle avait affirmé que la gardienne était exemptée d'obéir à Suan, contrairement aux autres sœurs ayant juré fidélité à Egwene. Mais celle-ci n'avait pas été dupe. Dès qu'elle en avait l'occasion, Shériam lança une pique, juste au cas où. Le coup ayant fait mouche, Suan avait insisté pour vider toute seule ses querelles avec Shériam. Désireuse de consolider la confiance très chancelante de son amie, Egwene n'avait pas pu lui refuser ce droit, à condition que la situation ne dérape pas trop. Alors que la chair d'Amirline rongeait son frein, agacé qu'il soit impossible d'aller plus vite, Suan recommença à râler à mi-voix, et Shériam se plongea dans une grande réflexion. Sans doute pour trouver quelque chose à dire qui ne lui vaudrait pas d'ennui. Toutes ces subtiles rosseries finirent par taper sur les nerfs d'Egwene. Au bout d'un moment, même l'impassibilité de Brian l'énerva. Remontée, elle chercha une remarque susceptible de déstabiliser le vieux guerrier. Hélas, ou par bonheur, elle ne trouva rien. Parce que ébranler cet homme était tout simplement impossible. Mais si ce voyage traînait encore, il allait bien falloir qu'elle se défoule sur quelqu'un. Alors que midi approchait, les lieux s'ajoutant aux lieux dans une mortelle monotonie, un des éclaireurs leva enfin un bras et se retourna sur sa selle. S'excusant à la hâte auprès d'Egwene, Brian partit au galop. Même si la neige le ralentissait, Voyageur, son hongre bai, ne tarda pas à rejoindre les cavaliers avancés. Après une brève conversation, Brian les expédia de nouveau en avant. Puis il attendit qu'Egwene et les autres femmes arrivent à son niveau. Romanda et Lelaine se détachèrent du groupe des représentantes pour venir rejoindre celui du seigneur. Comme toujours, elles ignorèrent Egwene et rivèrent sur le seigneur le regard froid et serein qui glaçait généralement le sang des hommes lorsqu'ils se trouvaient face à des Aes Sedai. N'était que ces Aes Sedai-là se lorgnaient d'un air à la fois méfiant et pensif. On eût dit qu'elles ne savaient pas vraiment ce qu'elles fichaient là. Egwene espéra qu'elles étaient à moitié aussi nerveuses qu'elles. Pour un début, ça suffirait. Le fameux regard des Aes Sedai fit autant d'effet à Brian qu'un cotter sur une jambe de bois. Et s'il salua les deux sœurs, ce fut à Egwene qu'il parla.
« Mère, ils sont déjà sur place. »
Oui, c'était prévu.
« Avec pratiquement tous leurs hommes, mais sur la berge nord du lac et nulle part ailleurs. » Des éclaireurs vont les surveiller pour s'assurer qu'ils ne tentent pas de nous encercler. Et pour être franc, je ne crois pas qu'ils essaieront.
Espérons que tu ne te trompes pas,
lâcha Romanda.
Ces derniers temps,
renchérit Lelaine.
Ton jugement n'a pas toujours été infaillible.
Si tu le dis, Aes Sedai.
Sans vraiment se détourner d'Egwene, Brian inclina très légèrement la tête. Aux yeux du hall et comme Suan, il était désormais lié à la chair d'Amerline. Si seulement ces femmes avaient pu savoir à quel point c'était vrai.
Encore une chose, mère. Talmanès est là, aussi. Sur la berge est, avec une centaine d'hommes de la compagnie de la Main Rouge. Pas assez pour nous faire des ennuis, même si leur chef le voulait. Et je doute que ce soit son intention.
Egwene se contenta d'acquiescer. Pas assez pour leur faire des ennuis. Talmanès tout seul pouvait y arriver. Un goût de bile dans la bouche, Egwene songea une nouvelle fois que son plan ne pouvait pas mal tourner.
« Talmanès !»
s'écria Lelaine, sa belle sérénité oubliée. La preuve qu'elle était au moins aussi énervée qu'Egwene.
« Comment a-t-il su ? Seigneur Brian, si tu as aussi comploté avec des fidèles du dragon, tu vas apprendre ce que signifie l'expression « aller trop loin ».»«
C'est scandaleux !»
s'exclama Romanda.
« Seigneur Brian, tu prétends venir de découvrir la présence de cet homme ? Dans ce cas, ta réputation est surfaite. Permets-moi de le dire. »
Pour certaines Aes Sedai, le calme légendaire était lui aussi bien surfait par cette étrange journée. Les deux femmes continuèrent sur leur lancée. Imperturbable, Brian continua à chevaucher, en lâchant de temps en temps un « si tu le dis » Aes Sedai flegmatique. Le matin, Egwene lui avait dit bien pire, et il n'avait pas davantage bronché. Pour finir, ce fut Siouan qui craqua, grognant de colère, et qui s'empourpra lorsque les deux représentantes la regardèrent stupéfiées. Et Gwen dut se retenir de hocher pensivement la tête. Siouan était amoureuse, ça ne faisait aucun doute. Et il fallait qu'elles aient une petite conversation toutes les deux. Brian sourit, peut-être seulement parce qu'il n'était plus l'unique objet de l'attention des représentantes. La colonne sortant soudain de la forêt, l'heure des pensées frivoles fut très brusquement révolue. N'était un large cercle de roseaux et de massettes quenouilles pointant leur nez hors de la neige, rien ne signalait l'existence d'un lac. De fait, il aurait pu s'agir d'une grande prairie au sol plat et au contour ovale. Au milieu du lac gelé, se dressait un dais bleu soutenu par de gros poteaux. Des gens s'agitaient autour et des serviteurs, derrière, tenaient des chevaux par la bride. Faisant onduler plusieurs étendards colorés et un certain nombre d'oriflammes, le vent charriait des cris étouffés, qui ne pouvaient être que des ordres. D'autres domestiques accoururent. Apparemment, les préparatifs n'étaient pas terminés. À moins d'un quart de lieue, la forêt reprenait ses droits, et les faibles rayons du soleil se reflétaient sur du métal. Beaucoup de métal, de toute évidence. À l'est, environ à la même distance que le dais, les hommes de la compagnie ne faisaient aucun effort pour se cacher. Debout près de leur monture, à la lisière des roseaux, ils n'avaient pas manqué de remarquer l'étendard de Tarvalon, et certains d'entre eux le désignèrent du doigt. Au milieu du lac, les gens regardaient aussi la colonne en approche. Et Gwen s'engagea, sans marquer de pause, sur le lac glacé et recouvert de neige. Pour se donner du cœur au ventre, elle imagina être un bouton de rose qui éclot sous le soleil. Un vieil exercice de novice pour se préparer à canaliser le pouvoir. Là, elle ne s'unit pas à la source, mais le calme qui l'envahit la combla d'aise. Siouan et Shiryam suivirent la chair d'Amirlin. Les représentantes, les champions et les domestiques leur emboîtèrent le pas. Parmi les soldats, seuls le seigneur Brian et le porte-étendard avancèrent. Entendant des cris dans son dos, Egwene devina que ce bon vieux Uno déployait ses hommes tout au long de la berge, plaçant les soldats les plus légèrement équipés sur les flancs, afin qu'ils puissent réagir très vite à une attaque surprise. Entre autres raisons, Pélivar avait choisi le lac parce que sa surface gelée, si elle pouvait soutenir plusieurs chevaux, ne résisterait pas à des centaines et encore moins à des milliers. Une façon radicale de réduire les risques de complications. Bien sûr, étant à portée d'arc et en pleine vue, le dais pouvait être frappé par le pouvoir de l'unique. Mais le plus grand crétin du monde aurait su qu'il ne risquait rien de ce côté-là, tant qu'il ne s'aventurait pas à menacer une Aes Sedai. Recouvrant peu à peu son calme, Egwen inspira à fond. En principe, pour accueillir la chair d'Amirlin, il aurait été séant que des serviteurs accourent avec des plateaux de boissons et des briques chaudes enveloppées dans des serviettes. Les seigneurs et les dames auraient dû venir en personne prendre les rênes de leurs visiteurs et les embrasser en l'honneur d'Abraham. En fait, n'importe quel visiteur d'un rang convenable aurait eu droit au domestique. Là, personne ne bougea. Du coup, Brian mit pied à terre et vint prendre les rênes d'Egwen. Le garçon trop maigre qui avait remplacé le charbon la veille vint tenir l'étrier de la chair d'Amirlin. Même si son nez était toujours congestionné, dans sa veste en velours rouge à peine trop grande pour lui et sa cape d'un bleu brillant, il donnait une belle leçon d'élégance criarde au noble massé sous le dais. Presque tous étaient en habit de laine, avec un minimum de broderie et pratiquement pas de dentelle. La neige ayant commencé à tomber alors qu'ils étaient déjà en chemin depuis pas mal de temps, ils avaient dû avoir du mal à dénicher des vêtements adaptés aux rigueurs de l'hiver. De toute façon, en matière d'élégance criarde, le jeune type en aurait remontré à un Zingaro. Sous le dais, des tapis couvraient le sol et des braseros brûlaient, la fumée et la chaleur aussitôt emportées par le vent. Deux rangées de 8 fauteuils étaient disposées face à face pour la délégation. Visiblement, il y avait plus de sœurs que prévu, comme en témoignaient les regards consternés qu'échangeaient plusieurs nobles. Se tordant les mains, leurs domestiques se demandaient que faire. En réalité, ils n'auraient pas dû s'inquiéter. Les sièges n'étaient pas assortis, certes, mais on les avait tous choisis de la même taille, et aucun n'était en plus mauvais état que les autres, ni moins chargé de dorures ou plus soigneusement sculpté. Le jeune type éthique et d'autres serviteurs entrèrent sous le dais, sans même saluer les nobles qui enfoncèrent les sourcils d'indignation, puis transportèrent dehors les sièges prévus pour les Aes Sedai. Ensuite, ils allèrent décharger les chevaux de bas. Jusque-là, personne n'avait prononcé un mot. Très vite, il y eut sous le dais assez de sièges pour Egwen et la totalité du hall. De simples bancs, même s'ils étaient polis au point de briller comme du métal, mais posés sur un grand socle recouvert d'un carré de tissu à la couleur de l'aja de chaque représentante. Pour le siège des Gwen, placé un peu en avant des autres, le tissu était rayé de plusieurs couleurs, comme son étole. Durant la nuit, les domestiques, s'était affairé à dénicher de la cire pour polir les bancs et du tissu de qualité dans les teintes voulues. Quand les représentantes et Egwene s'assirent, elles se retrouvèrent un bon pied plus haut que tout le monde. À ce sujet, la jeune femme avait eu des doutes, mais le mauvais accueil qu'on venait de lui réserver les lui enleva. Le jour d'Abraham, le dernier des fermiers aurait embrassé un vagabond avant de lui offrir à boire. Or, la délégation n'était pas venue pour implorer Pélivar, et ce n'était même pas une rencontre entre égaux. Pas la lumière. Egwene et ses compagnes étaient des Aes Sedai. Les champions vinrent se placer derrière les sœurs, Siouan et Shiryam flanquant Egwene. Histoire de montrer que le froid ne les affectait pas, toutes les sœurs retirèrent leurs gants et écartèrent les pans de leurs capes. Un contraste frappant avec les nobles d'en face, emmitouflés dans la leur. Dehors, la flamme de Tarvalon battait au vent. En somme, une mise en scène très réussie. Seule Halima, assise près du banc de Delana sur un coin du socle, gâchant quelque peu l'effet. Mais pas tant que ça, car le regard plein de défis qu'elle lançait aux Andoriens et aux Mourandiens ne manquait pas de panache. Quand Egwene avait pris place sur le banc disposé un peu en avant des autres, il y avait eu quelques regards étonnés, mais bien moins nombreux qu'elle l'aurait cru. « J'imagine qu'ils ont entendu parler de la chair d'Amerline juvénile », pensa-t-elle amèrement. Certes, mais il y avait eu, dans l'histoire des sœurs, plus jeunes qu'elle, y compris en Andorre et au Mourandi. Egwene hocha la tête, et sur ce signe, Shiryam désigna aux nobles la rangée de fauteuils. Peu importait qui était arrivé en premier et fournissait le dé. Cette réunion avait été initiée par les Aes Sedai et elle dirigerait les débats. Cette façon de procéder déplut à ceux qui se prenaient pour la puissance invitante. Dans un silence pesant, les nobles se demandèrent comment ils pouvaient au moins rétablir l'équilibre, et tous grimacèrent en concluant que ce n'était pas possible. L'air maussade, 8 d'entre eux, 4 hommes et 4 femmes, prirent place en face des Aes Sedai. Les autres se campèrent derrière les sièges. À les voir se bousculer pour avoir la préséance, Egwene déduisit qu'il n'y avait guère d'amitié et d'estime entre les Andoriens et les Mourandiens. Cela dit, on jouait aussi des coudes à l'intérieur de chaque groupe, et sans se faire le moindre cadeau. Bien entendu, les Aes Sedai eurent droit à leur lot de regards noirs. Debout d'un côté de la rangée, son casque sous le bras, Bran fut lui aussi regardé de travers. Connu des deux côtés de la frontière, il était universellement respecté, même par des gens qui auraient bien aimé le voir mort. Mais ça, c'était avant qu'il prenne le commandement de l'armée des Aes Sedai. Comme les piques des sœurs, les éclairs que lançaient les yeux des nobles le laissèrent de marbre. Un autre homme resta un peu à l'écart des deux camps. Le teint pâle, à peine plus grand d'une tête qu'Egwene, il portait une veste noire sous son plastron. Le devant de la tête rasée, il arborait une longue écharpe rouge autour de son bras gauche. Quant à sa cape grise, elle était ornée sur la poitrine d'une grande main rouge. C'était Talmanès. Appuyé à un poteau en face de Brian, il observait tout, sans rien trahir de ses sentiments. Egwene aurait donné cher pour savoir ce que cet homme fichait ici, et ce qu'il avait dit avant qu'elle arrive. Dans tous les cas, il faudrait qu'elle s'entretienne avec lui, s'il était possible de le faire en privé. L'homme mince en veste rouge, assis au milieu de la rangée de fauteuils, se pencha en avant et fit mine de parler. Mais Shiryam le devança.
« Mère, puis-je te présenter, tous les quatre du royaume d'Andorre, la dame Aratel Renchar, haute chère de la maison Renchar, le seigneur Pélivar Coelan, haute chère de la maison Coelan, la dame Aemlin Carande, haute chère de la maison Carande, et son mari, le seigneur Coulan Carande. »
À l'énoncé de son nom, chaque noble hocha brièvement la tête. Le crâne déjà dégarni, l'homme en veste rouge n'était autre que Pélivar. Grâce à Brian, qui s'était procuré les noms de négociateurs, Shiryam put enchaîner sans marquer de pause.
« Tous les quatre du Mourandi, puis-je te présenter Donnel d'Omorny à Lordaine, Sian d'Omeon à Macansa, Peitre d'Oferna à Con et Segan d'Oavarin à Ross ?»
Alors que les Andoriens avaient peu apprécié qu'on abrège considérablement leurs titres, les Mourandiens détestèrent carrément qu'on fasse l'impasse sur les leurs. Plus lestée de dentelle que la plupart des femmes, Donnel tortilla nerveusement sa moustache recourbée, et Peitre tira sur la sienne comme s'il voulait l'arracher. Segan fit la moue, ses yeux noirs brillants d'indignation. Femme grisonnante et massive, Sian grogna audiblement. Mais Shiryam continua imperturbablement.
« Vous êtes tous les huit sous le regard de la protectrice des sceaux et devant la flamme de Tarvalon. Présentez vos suppliques à la chair d'Amirlin. »
L'entrée en matière avait déplu, et la suite n'arrangea pas les choses. Jusque-là, maussade, les huit nobles semblaient à présent sinistres. Avaient-ils cru pouvoir faire comme si Egwene n'était pas vraiment la chair d'Amerline ?
eh bien, ils apprendraient à qui ils avaient affaire.
Quand elle l'aurait appris au hall, cependant.
« Il existe de très anciens liens entre le royaume d'Andorre et la Tour Blanche, »
dit-elle.
« Et les sœurs, depuis toujours, s'attendent à être bien accueillies, en Andorre ou au Morandi. Pourquoi opposer une armée à des Aes Sedai? Vous osez ce que des têtes couronnées et des nations ne se risqueraient pas à faire. Pour avoir voulu se mêler des affaires de la Tour, des souverains ont perdu leur couronne. »
Que Myrel et les autres aient ou non balisé le terrain, cette menace devait faire son effet. Avec un peu de chance, ses sœurs étaient déjà sur le chemin du retour vers le camp, sans que personne sache ce qu'elles avaient fait. À condition, bien sûr, qu'aucun de ces nobles ne prononce le mauvais nom. Dans ce cas, Egwene perdrait son avantage sur le hall. Mais comparé à tout le reste, c'était secondaire. Pélivar tourna la tête vers la femme assise à côté de lui. Aussitôt, Aratel se leva. Même avec ses rides, on voyait toujours qu'elle avait été très jolie dans sa jeunesse. Désormais grisonnante, elle avait le regard aussi perçant que celui d'un champion. Ses mains gantées de rouge tiraient sur les pans de sa cape. Mais ce n'était pas un signe d'inquiétude. Après avoir balayé du regard la rangée d'Aes Sedai, elle prit la parole.
« Nous sommes ici, parce que nous ne voulons pas être impliqués dans les affaires de la tour, justement. »
Tout à fait logiquement, pour une haute chaire, Aratel s'exprimait avec une grande autorité, et sans l'ombre d'une hésitation, ce qu'on aurait pu attendre alors qu'elle faisait face à tant de sœurs et à la chaire d'Amirlin.
« Si tout ce que nous avons entendu est vrai, vous permettre de traverser le royaume d'Andorre reviendrait à prendre votre parti, en tout cas aux yeux de la Tour Blanche. Bref, si nous ne vous opposons pas de résistance, nous finirons par connaître le sort d'une grappe de raisin écrabouillée dans un pressoir. »
Cette fois, ce fut Aratel que les Mourandiens foudroyèrent du regard, car ils n'avaient jamais tenté d'empêcher les sœurs de traverser leur pays. Très vraisemblablement, personne n'avait même jamais réfléchi à ce qui se passerait lorsqu'elles aborderaient la frontière d'une autre contrée. Aratel continua comme si elle n'avait rien remarqué. Mais Egwene aurait juré que ce n'était pas le cas.
« Nous avons eu vent de rapports selon lesquels des Aes Sedai accompagnés de gardes de la tour traverseraient déjà l'Andorre en secret. Rumeurs serait un mot plus juste, mais ces rumeurs se font cependant de plus en plus insistantes. Et nous ne voulons pas qu'une bataille entre Aes Sedai ait lieu en Andorre.
« La lumière nous protège !»
s'écria Donnel, rouge comme une pivoine. Peitre approuva du chef, et Sian se tendit comme un ressort.
« Personne ne veut voir ça au Mourandi non plus !»
lança Donnel.
« Pontre des Aes Sedai! Nous savons ce qui est arrivé à l'Est, et ses sœurs !»
Egwene respira un peu mieux quand Aratel coupa la parole à Donnel.
« Seigneur Donnel, s'il te plaît, ton tour de parler viendra. »
Sans attendre la réponse du seigneur, Aratel se tourna de nouveau vers Egwene, enfin vers les représentantes. Alors que les Mourandiens s'étouffaient d'indignation, elle semblait très sereine, comme si elle se contentait d'exposer des faits, en imposant sa façon de les voir.
« Comme je l'ai dit, c'est notre plus grande crainte, si ces histoires sont vraies, et même si elles ne le sont pas. Il se peut que des Aes Sedai et des gardes de la tour avancent en secret en Andorre, et il est certain que d'autres Aes Sedai et une armée se pressent à nos frontières. Très souvent, par le passé, la Tour Blanche a fait mine de viser un objectif, alors qu'elle en avait en réalité un autre. Je ne puis croire en tant de duplicité, mais qui sait? S'il est une cible que toutes les sœurs pourraient vouloir frapper, c'est bien la Tour Noire.
Aratel frissonna, et ce n'était sûrement pas de froid.
Un conflit entre sœurs dévasterait le pays sur des lieux à la ronde. Ce conflit-là le détruirait à demi.
Pélivar se leva à son tour.
Bref, vous devrez passer par un autre chemin,
résuma-t-il d'une voix bizarrement haut perché, mais aussi ferme que celle d'Aratel.
Si je dois mourir pour défendre ma terre et mon peuple, je préfère que ce soit ici, plutôt qu'au cœur même de ma patrie.
Sur un signe d'Aratel, le seigneur consentit à se rasseoir, mais son expression ne s'adoucit pas. Comme son mari au visage carré, Aemlyn ne soutint en hochant vigoureusement la tête. Donnel regarda Pélivar comme si ce qu'il venait de dire était une révélation pour lui. Derrière les fauteuils, les autres Mourandiens commencèrent à discuter ferme, certains allant jusqu'à brandir le poing. Quelle mouche avait piqué ces gens pour qu'ils s'allient à ces Andoriens? Egwene songea à un bouton de rose qui éclot au soleil. Ces nobles ne la traitaient pas comme la chair d'Amirlin. À part en la jetant dehors, Aratel n'aurait pas pu lui manifester moins de respect. Mais à part ça, il venait de lui donner tout ce qu'elle désirait. C'était donc le moment d'être plus calme que jamais. Sur leur banc, Lelaine et Romanda s'attendaient toutes les deux à être désignées pour parler au nom de leur dirigeante. Avec un peu de chance,
Le suspense leur noua l'estomac. Mais elles étaient loin d'avoir tout vu. Et Gwen balaya du regard les nobles qui lui faisaient face.
« Elaïda est une usurpatrice qui a violé les lois fondamentales de la Tour Blanche. Je suis la chair d'Amerline. »
La jeune femme s'étonna d'être si calme et pleine d'autorité. Mais ça la surprit moins que par le passé, parce qu'elle était bel et bien la chair d'Amerline.
« Nous allons à Tarvalon pour renverser Elaïda et la traduire en justice. Mais ce sont les affaires de la Tour, et elles ne vous concernent pas, même si je consens à vous révéler la vérité. » Cette prétendue tour noire ne regarde également que nous. Depuis toujours, la tour blanche s'occupe des hommes capables de canaliser. Nous nous chargerons de cela le moment venu, et ce n'est pas encore le cas. D'autres priorités mobilisent notre attention.
Et Gwen entendit du bruit derrière elle, des grincements de pieds de banc et des crissements de tissus froissés. Une partie des représentantes commençait à s'agiter. Peut-être celle qui avait proposé d'anéantir la tour noire au passage. Malgré tout ce qu'on racontait, ces femmes ne pouvaient pas croire qu'il y avait là-bas plus d'une poignée d'hommes. Selon elles, il était impossible que des centaines de mâles aient envie d'apprendre à canaliser. Mais cette nervosité signifiait peut-être aussi que les plus futées des représentantes venaient de comprendre que Lelaine et Romanda allaient en être pour leurs frais. Aratel fronça les sourcils, sans doute parce qu'elle captait quelque chose dans l'air. Pélivar sembla sur le point de se relever, et Donnell se redressa sur son siège. Bien, maintenant que le vin était tiré, il allait falloir le boire.
« Je comprends vos inquiétudes, »
continua Egwen.
« Et j'y répondrai. »
C'était quoi le cri de guerre de la compagnie ? Ah, oui. Il est temps de jeter les dés.
« La chair d'Amerline en personne s'engage à ce qui suit. Pendant un mois, nous resterons ici pour nous reposer. Puis nous quitterons le Mourandi, mais nous ne franchirons pas la frontière du royaume d'Andorre. Après ça, nous ne poserons plus jamais de problème au Mourandi. Et Andorre n'en aura aucun. » Je suis certaine que les seigneurs et les dames mourandiens ici présents seront ravis de nous fournir des vivres et de l'équipement en échange de belles pièces d'argent. Croyez-moi, nous payons bien.
Amadoué, les andoriens ne serviraient à rien si les mourandiens se mettaient à voler les chevaux et à attaquer les convois de ravitaillement. Les mourandiens, justement, semblaient en proie à un dilemme. Avec une armée de cette taille, il y avait beaucoup d'argent à se faire, à condition de ne pas être en position d'infériorité pour marchander, ce qui risquait d'être le cas. Donnell paraissait au bord de l'apoplexie, et Sian avait l'air de se livrer à de complexes calculs mentaux. Et derrière les fauteuils, sa murmure est ferme, presque assez fort pour que Gwen comprenne. En revanche, un silence assourdissant régnait dans son dos. Près d'elle, Suwan gardait la tête bien droite et serrait violemment le devant de sa robe, comme si ça pouvait l'aider à ne pas jeter un coup d'œil par-dessus son épaule. Mais au moins, elle savait depuis le début ce qui allait se passer. Alors qu'elle n'était pas dans la confidence, Shiryam continuait à regarder froidement les Andoriens et les Mourandiens, à croire qu'elle n'était pas surprise. Et Gwen devait faire oublier à ses interlocuteurs la gamine qu'ils pensaient avoir face à eux, et s'imposer comme une femme qui tenait fermement les rênes du pouvoir. C'était le moment ou jamais de s'affirmer.
« Comprenez-moi bien. J'ai pris ma décision, et il ne vous reste plus qu'à l'accepter. Ou à assumer les conséquences inévitables d'un refus. »
Au moment où Gwen se tut, le vent se déchaîna, faisant trembler la toile du dais. Comme si elle pensait que les éléments venaient renforcer son propos, Egwen passa très calmement une main dans ses cheveux. En face d'elle, derrière les fauteuils, certains nobles tremblaient dans leurs beaux atours. Avec un peu de chance, le froid n'était pas la seule cause de leurs frissons. Aratel, Pélivar et Aimlin se consultèrent du regard, puis ils dévisagèrent les représentantes avant de hocher lentement la tête. À l'évidence, ils pensaient qu'Egwen venait de réciter sa leçon comme un perroquet. Même si cette idée lui déplut, la jeune femme faillit soupirer de soulagement.
« Il en sera comme vous le désirez, »
dit Aratel, s'adressant toujours aux représentantes.
« Nous ne mettons pas en doute la parole des Aes Sedai, bien entendu. Mais vous ne vous vexerez pas si nous restons également ici. Parfois, ce qu'on a cru entendre n'est pas ce qu'on a vraiment entendu. Ce n'est pas le cas en ce jour, bien sûr, mais nous resterons ici jusqu'à votre départ. »
Donnell semblait vraiment malade. Probablement parce que ces terres n'étaient pas très loin de là. Les armées andoriennes venues au Mourandi n'avaient jamais été très disposées à payer pour quoi que ce soit. Et Gwen se leva, un concert de bruissements lui indiquant que les représentantes l'imitaient.
« Marché conclu, donc. Si nous voulons dormir sous nos tentes ce soir, il faudra bientôt partir. Mais il nous reste un peu de temps pour faire connaissance. Une bonne façon d'éviter des malentendus à l'avenir. »
et peut-être une occasion de parler avec Talmanès.
Encore une chose que vous devez savoir. Le registre des novices est désormais ouvert à toutes les femmes, quel que soit leur âge, qui présentent les aptitudes requises.
Aratel sursauta. Pas Siouan. Mais Egwene crut l'entendre étouffer un grognement. Cette dernière remarque ne faisait pas partie du plan, mais l'occasion était trop belle.
Venez donc. Je suis sûr que vous serez tous ravis de pouvoir dialoguer avec les représentantes. Oublions un peu le protocole.
Sans attendre que Shyam lui propose de l'aide, Egwene descendit de son perchoir. Elle se sentait d'humeur à éclater de rire. Toute la nuit, elle avait redouté un échec. Et voilà qu'elle avait fait la moitié du chemin vers son objectif, et sans réelle difficulté. Cela dit, il restait l'autre moitié.